RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les GG en direct comme tous les jours de 9h à midi. Et si vous avez raté les grandes gueules, vous savez que vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur rmc.fr. Les grandes gueules qui sont cette année encore aux côtés des maires pour le Grand Prix des maires, ce sont toutes les belles initiatives, toutes les bonnes initiatives qu'il convient de souligner, de mettre en avant. Alors... chaque année, on récompense des villes qui ont eu des initiatives innovantes, originales. Vous êtes dans l'une de ces villes et vous dites « Tiens, ce qu'on fait, c'est pas mal, on pourrait les dupliquer partout dans le pays. » Eh bien, il suffit d'inscrire votre municipalité sur le site internet legrandprixdesmaires.fr avec .rmc.fr. C'est pas compliqué, vous allez sur notre site internet et vous retrouvez précisément tout le mode d'emploi. Et chaque année, on se retrouve au moment du congrès des maires. Cette année, ce sera aux Folies Bergères pour récompenser ces municipalités qui ont réussi à faire changer le quotidien de leurs habitants. Donc, allez sur internet, sur notre site internet rmc.fr. Vous trouverez l'onglet Grand Prix des maires et vous pourrez l'inscrire. On va passer à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
On vous a proposé deux sujets de discussion, un vie quotidienne et un politique. Le sujet vie quotidienne, c'était l'origine des plantes, des bouquets de fleurs, qui sera bientôt indiqué de façon à ce que quand on offre des fleurs, on fasse un geste vertueux. L'autre sujet de discussion, c'était ce qui concerne Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et Éric Dupond-Moretti, qui est mis en examen dans la Cour de la justice de la République. Doivent-ils démissionner? Eh bien, c'est le sujet politique que vous avez choisi. À ce propos, tiens, si on écoutait le président de la République.
Sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat?
Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
Voilà, c'était sur France Télévisions avec David Pujadas, Emmanuel Macron.
Oui, elle est cruelle, cette archive. C'était un jeune Emmanuel Macron 2017. En 2017, pendant la campagne présidentielle, qui finalement était fidèle à l'arrêt qui avait été fixé par Édouard Balladur, un ministre mis en examen doit démissionner. Alors depuis, cette règle n'a plus été respectée et on a donc aujourd'hui un ministre Dupond-Moretti qui est mis en examen et nous avons le secrétaire général de l'Élysée qui est peut-être l'homme le plus puissant de France ou l'un des plus puissants de France après le président de la République qui lui-même est mis en examen dans deux affaires différentes. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces affaires qui sont pas à moins de sens de grands scandales, mais qui nécessitent une instruction, une mise en examen. Ça finira par non-lieu, sans doute. Néanmoins, est-ce qu'ils peuvent rester à leur poste le temps de l'instruction, sachant que ça peut prendre, bien sûr, beaucoup de temps, parce qu'il y a des recours. Par exemple, Dupond-Moretti s'est pourvu en cassation. Est-ce qu'ils peuvent rester et je pense que peut-être le problème... C'est celui surtout du garde des Sceaux, puisqu'il est ministre de la Justice, lui-même mis en examen et renvoyé devant une cour spéciale, parce que bizarrement on a créé une cour spéciale pour les ministres, ils ne sont pas jugés comme nous, il est jugé par d'autres magistrats, la cour spéciale. Alors qu'est-ce que vous en pensez, la Cour de justice de la République, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils doivent démissionner, oui ou non?
CJA. Alors, Madame l'avocate.
Moi déjà, j'apporte mon soutien à Éric Dupond-Moretti. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un parcours remarquable et exceptionnel. Après, la CJR, donc Cour de justice de la République, qui a été instituée, il me semble, en 93, a beaucoup été remise en question. Il faut voir sa composition aussi. Il y a des magistrats de la Cour de cassation, qui composent cette Cour. Donc moi, ça me semble problématique. Parce que dans ce cas-là, par exemple, Abad, pourquoi il démissionne pas? Ça voudrait dire que tout le monde doit démissionner. À la limite, il faudrait faire une enquête approfondie des ministres que l'on veut nommer plutôt que de découvrir les choses a posteriori. Mais pour moi, non, il ne doit pas démissionner. Enfin, il démissionnera.
Dupond-Moretti, ce qu'on lui reproche, c'est quand
il dégage. Oui, j'ai compris, par rapport au PNF.
Dans sa fonction de ministre de la Justice, on lui reproche d'avoir voulu régler des comptes entre guillemets avec des magistrats.
Olivier, moi je trouve qu'il y a une vraie défiance. Attends, je trouve qu'il y a une vraie défiance des magistrats envers Éric Dupond-Moretti. Ça, faut pas l'oublier. Donc, si c'est faire un exemple.
Dans le règlement de compte magistrat-avocat, quoi, en fait, c'est ça.
Je pense un petit peu, oui, je pense, oui, on veut à se payer la tête d'Éric Dupond-Moretti pour l'exemple, et je ne pense pas que ce soit un exemple pertinent. C'est un très bon ministre de la Justice, c'était un excellent avocat, moi j'ai une grande admiration pour lui.
Moi je pense réellement, et ce que disait Macron en 2017, c'était ça, moi je pense réellement que tu as un devoir d'exemplarité, et que Tu vois, on a fait démissionner Laura Flessel parce qu'elle avait fait une fausse déclaration de patrimoine. Or là, c'est pire.
C'est le ministre des Sports.
Là, c'est pire, parce que là, c'est quand même, t'es mis en examen.
Alors, mis en examen ne veut pas dire coupable, mais présumé innocent.
J'ai bien compris, excuse-moi, j'ai pas fait droit, mais je connais un peu l'histoire. Et je pense réellement que là, t'as un devoir d'exemplarité. Moi, je fais partie de ceux qui ne votent pas, parce que j'ai pas confiance en eux, et j'ai jamais...
Ah, tu votes pas?
Non, j'ai jamais voté de ma vie, j'ai aucune confiance en eux. Et plus on avance dans le temps, plus je m'en rends compte. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces gens-là, eh ben, à un moment donné, ils disent, bon, bah voilà, j'ai fait une connerie, je me mets de côté. On a tapé sur la tête à Quatennens, à juste titre.
Et il s'est mis de côté.
Ouais, oui, mais il s'est mis de côté.
Il a fait un communiqué de presse.
Ouais, ça, c'est un peu le problème. On est d'accord.
Il s'est mis en retrait. Il a fait un communiqué en disant, oui, j'ai giflé ma femme.
Oui, ah, bah, non, mais là, il y a un vrai sujet. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, mais abat tous. Mais peu importe la couleur. À partir du moment
où. Et abat, il n'y les fait. Pardon, je sais pas.
Non, mais Dupont aussi. Pardon, Éric Dupont-Moretti aussi.
Excuse-moi, mais je sais pas si un jour t'auras à faire la justice, mais.
Mais je te défendrai, Bruno. Je serai là.
Non, mais dans le sens où tu serais accusé. Une mise en examen. C'est, tu restes présumé innocent tant que tu n'es pas condamné.
Oui, mais
c'est que tu sois ministre ou simple citoyen.
Ministre,
alors
c'est
après,
compliqué.
Tu peux imaginer qu'un citoyen, un ministre ne doit pas être mis en examen. Tu peux fixer cette règle-là.
Et tu
ne
peux pas faire une présomption d'innocence à géométrie variable.
Non, moi, je ne parle pas de loi, je parle juste de morale.
Mais tu ne peux pas mélanger le droit et la morale.
Non, mais oui, mais je sais que c'est compliqué.
Tu as raison, la morale, c'est une chose, mais on ne sait rien.
Oui, mais
est-ce qu'il est fautif ou pas?
Et en plus, Dupont-Moretti, il y a un truc aussi qu'il faut dire, et moi, j'ai entendu les magistrats le dire, c'est que c'est pas mauvais ministre, parce que pour eux, il a quand même augmenté le budget, de 8%, je crois, ça fait deux ou trois fois que c'est 8% d'augmentation. Il a octroyé une augmentation de salaire, donc les magistrats ne font pas une cabale anti-Dupont-Moretti.
Il y a un règlement de compte entre le syndicat de la magistrature et Dupont-Moretti, qui est un avocat, hein, on le sait tous. Mais c'est évident, ça saute aux yeux.
De toute façon, il y a un vrai problème d'exemplarité de tous les hommes politiques et il y a un vrai sujet là-dessus.
Bruno,
est-ce qu'on appelle à démissionner? Parce qu'en ce moment, c'est ça.
C'est la démissionnite, comme a dit M. Neumann hier.
C'est justement, alors ils disent démissionnite aiguë. C'est-à-dire que maintenant, il se passe un truc, appel à démission. Sans discernement, c'est-à-dire que tout se vaut, alors qu'à mon avis, tout se vaut pas.
Il y a aucune hiérarchie.
Tu parles d'Adrien Quatennens, mais lui-même a reconnu les faits. Donc c'est pas la même chose d'un Damien Abad qui nie les faits.
Ou un Bayou, d'ailleurs.
Ou d'un Bayou qui, lui, est accusé de rien, puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc en fait, on mélange tout et on voudrait que tout le monde démissionne.
Non, mais là, on mélange rien. Il est mis en examen.
Il est innocent
en
examen.
Non, mais
ça va vite,
c'est
mis en examen.
Mais attends, ça veut dire que pour toi, Bruno, je dépose plainte contre n'importe quel ministre, il doit démissionner. C'est trop facile de faire ça.
Non, tu peux déposer plainte, ça ira peut-être pas jusqu'à le temps qu'il y ait un examen.
En plainte, une diffamation.
Non, mais Éric Dupond-Moretti, il n'est pas ministre de l'Agriculture, il est ministre de la Justice.
Non, mais à un moment donné, c'est quoi ça veut dire que tu hiérarchises les ministres qui sont régaliens et ceux qui ne le sont pas.
Non, mais c'est pour vous, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais tant mieux, restons dans un pays corrompu. Ressemblons à tous ces pays corrompus.
Pour l'instant, il est présumé innocent, mais c'est quoi ça?
Il est moins corrompu au monde.
Moi, je sais pas, mais
Amérique du Sud, moi, je
le vrai sujet, c'est que, par exemple, là, sur colère, on parle de colère et l'histoire de MSC, moi, j'entends. Mais il y a quand même une histoire qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Uber, où à un moment donné, le ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron a favorisé l'implantation d'Uber et surtout les conditions sociales dans lesquelles qui était son chef de cabinet à l'époque? Qui était le mec qui travaillait à côté de lui tout le temps? C'est la même personne. Donc moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais à un moment donné...
C'est pas un délit, ça.
C'est pas un délit, mais quand c'est sorti sur la table, il y a quand même un conflit d'intérêt. Quand t'es ministre, tu favorises pas une entreprise qui est concurrentielle avec, par exemple, Taxi G7.
Non, elle a apporté du bien Uber,
Uber a apporté des trucs top.
Non, mais revenons sur la règle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a maintenant un ministre mis en examen?
Et bien, on attend que la justice fasse son œuvre.
Oui, non, il faut établir une règle qui est stricte sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, comme dit Olivier, ça part dans tous les sens. On fait tout le monde en examen, les mecs doivent démissionner, que ce soit des députés.
On fout pas tout le monde en examen. Il y a des ministres qui absolument rien à se reprocher. Attention.
Là, on est en train d'en prendre la route, quoi, la voie. C'est
si tu te fies à la règle qui a été édictée par le candidat qui ensuite est devenu président de la République, un ministre en examen doit démissionner. Donc, si tu te fixes juste à cette règle-là.
C'est vrai.
Mais est-ce que M. Macron est le roi de la cohérence?
Le garde des Sceaux devrait quitter ses fonctions et la place en nom. Simplement en se fiant à cette archive qui est donnée par l'ancien candidat devenu président de la République.
Ouais, mais moi, je reste encore une fois sur le fait que c'est une affaire qui est quand même interne à la justice, hein, parce que c'est encore une fois les magistrats, le syndicat de magistrature contre un avocat qui s'appelle Dupont-Moretti.
Non, c'est le ministre.
Mais il est plus ministre. Avocat.
Ils ont attaqué quand c'était ministre.
Ça fait rien, mais ça fait rien, c'est Belloubet qui a lancé.
On ne parle pas de l'histoire de Monaco les histoires de trucs cachés.
Mais je pense qu'il y a un vrai règlement de compte.
Mais évidemment.
Ce cas-là est quand même
C'est très révélateur.
Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est le tribunal spécial qu'on a mis en place pour les politiques.
Pour la CJR, mais la CJR, on parle régulièrement de sa suppression.
On l'a mis en place pour l'affaire du second cabinet. Moi, je pense qu'il devrait être jugé comme les autres, devant la justice.
Voir la composition de la CJR aussi avec les parlementaires.
Alors, on va en parler avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Oui, bonjour.
C'est Mehdi Guézard.
Bonjour Mehdi de Lyon, électricien. Alors, est-ce qu'ils devraient démissionner tous les deux ou pas, selon vous?
Les deux, oui, ils doivent démissionner, clairement. Selon les propos de Macron, déjà, je crois, on peut pas dire blanc un jour et noir le lendemain.
Mm-hmm. Oh, si, c'est souvent en politique quand même. C'est
un peu leur spécialité.
Allez-y, mettez-vous.
Venant de la parole d'un président, je sais pas. Hein. À un moment, et puis concernant Alexis Kohler, votre confrère de Spécial Investigation a quand même pas mal enquêté dessus. Et il a établi quand même pas mal de faits. Je vous invite à regarder ce qu'il a fait.
Mm-hmm. Ouais, oui.
Donc oui, Alexis Kohler, comme M. Dupond-Moretti, c'est pareil. Hein.
On n'attend pas la fin du processus judiciaire.
Donc c'est le tribunal médiatique qui fait son œuvre pour vous. Finalement.
Non mais c'est intéressant parce que on pourrait dire on attend de voir s'ils sont coupables ou pas.
Allez-y, pour qu'il y ait une enquête,
une mise en examen, il faut quand même des indices graves, des faisceaux de graves et concordants. On est d'accord.
Oui.
Oui, mais souvent ça aboutit à non-lieu. Enfin,
pas souvent, ça dépend. Mais...
Non, mais je veux dire, par exemple, dans l'affaire Kohler, il y a eu une première instruction, c'était le parquet national financier, qui a d'ailleurs, il s'est rien passé, et ensuite l'association Anticor a de nouveau porté plainte et un juge d'instruction a été saisi.
Imaginons qu'il démissionne et qu'il y a un non-lieu derrière.
Oui.
Allez-y, Mehdi.
La première fois, il y a eu une intervention de M. Macron pour l'affaire Alexis Kohler.
Dans le parquet national financier, une intervention de
la... Disons qu'il a mis la pression quand même, parce que dans les médias, il a quand même pas mal parlé. Hein.
Comme je vous dis, regardez bien ce que votre confrère de spécial investigation, anciennement de Canal Plus, a fait comme enquête, et puis oui...
Vous l'avez déjà jugé. Moi, je ferai assez confiance à la justice. Il faudrait qu'elle soit plus rapide parce que si je prends votre scénario, donc il démissionne dans 3-4 ans, il a un non-lieu. Bon, mais finalement, le type, il a perdu son job pour rien.
C'est
quand même, ça pose un problème. Soit on arrive à instruire très rapidement ces dossiers, on va un peu plus vite. Là, les magistrats accélèrent le mouvement. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut peut-être se mettre en retrait, mais on sait que dans 6 mois, on sera jugé. Le problème, c'est qu'en France, on est jugé 3 ans après. Donc pendant 3 ans, socialement, on n'existe pas.
Mais faute de moyens, ça va injecter plus de moyens dans la justice.
Comment Mehdi?
Il sera sûrement jugé après sa mort, comme tous les autres, de toute manière. C'est toujours la même chose avec les politiques. Ils font traîner, regardez l'affaire Sarkozy. Sarkozy, ça fait combien d'années qu'il est mis en examen à répétition?
Il y a eu des procès.
Il y a des condamnations.
Il va représenter la France auprès de, je sais plus quoi, la Chine.
Oui, c'est autre chose.
Vous voulez mettre tout
aux obsèques.
En fait, vous voulez mettre les politiques tous au trou, quoi.
Non, mais les politiques, c'est bon. Il y a un moment donné.
Voilà, c'est ça.
Ça fait un an et les affaires sur affaires, de droite comme de gauche. C'est bon. Il y a un moment.
Vous votez encore ou pas?
Oui, je vote encore. Oui. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas si je retournerai parce que sincèrement, il y en a marre maintenant. De droite comme de gauche, c'est tout pareil.
Je pense qu'on voit ces affaires, et elles sont quand même nombreuses. Il n'y a pas que. Il faudrait qu'il y ait vraiment une cellule, mais vraiment appropriée, avec des magistrats. Non, mais qui puissent juger rapidement ce que disait Olivier. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ce sont des gens qui sont au devant de l'actualité, ce sont nos représentants, ce sont ceux qu'on a élus ou pas, mais en attendant, ils sont là. Et en termes d'exemplarité, ça serait bien que la justice puisse aller très vite sur ce type de dossier.
Non, mais ça, il faut mettre plus de moyens dans ce cas-là.
Oui, mais c'est quand on voit un peu.
Quand on voit un juge, tout ce qu'il a à faire. Comment?
Demande au ministre de la Justice, il met plus de moyens pour.
Mets-toi dans le micro.
Il y a pas
de ministre de la Justice.
Il a quand même fait beaucoup.
Il faut reconnaître que le budget, depuis qu'il est là, du coup, on aurait dit le budget de la justice.
Moi, je suis honnête,
ça a commencé sous Hollande d'ailleurs, l'augmentation du budget de la justice.
Merci à Mehdi d'avoir été avec nous. Mehdi un peu dégoûté de tout ce qui se passe. Il préférait à ce moment-là qu'il donne l'exemple.
Mais c'est vrai que.
Et qu'il quitte leur fonction. Alors, c'est la question qu'on a posée. Justement, là aussi, c'est toujours pareil sur les réseaux sociaux. Quand on discute, le temps de la discussion, Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti doivent-ils démissionner?
Il n'y a pas débat.
Attendez, c'était un oui à plus de. Ah, ça a bougé là pendant que je discutais.
Oui, 81%.
J'ai des fans.
la jurisprudence poncée. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules et avec vous au 32-16 comme Mehdi là, qui nous appelait de Lyon, on va reparler des refus d'obtempérer en cascade. On a des chiffres et surtout, face à ces refus d'obtempérer,
J'ai l'impression que pour les policiers aujourd'hui, là maintenant, c'est devenu toujours la même chose. Ils sortent leur arme, ils tirent.
Non.
Alors, est-ce que ça veut dire que les refus d'obtempérer, il faut revoir les méthodes de contrôle et d'interpellation et de réplique? On a une équipe, oui, il faut revoir tout ça, Bruno Poncet et Olivier. Et on a une équipe, non, Bruno Pomard, Sarah Salman. Donc, on vous attend au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Bruno Poncet, Bruno Pomard, Sarah Salman, un cheminot, un ancien policier, maire de Bellefous dans l'Aude et une avocate. Voilà le trio de GG qui vous accompagne. Vous savez que les grandes gueules, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez nos vidéos qui sont mises en instantané par notre community manager, Alexandra Bischoff. Vous avez aussi les podcasts à votre disposition. Par exemple, pour écouter le GG, c'était match, parce que c'est l'heure.
RMC.
GG, 7 et match.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une semaine aujourd'hui sans avoir ce qu'on appelle le refus d'obtempérer. Sur l'année 2020-2021, on en a dénombré 27 000. L'an dernier, les policiers ont dû effectuer ce qu'on appelle 157 tirs sur véhicule. Mais depuis le début de l'année 2022, la police a tué 9 personnes dans leur voiture suite à ces refus d'obtempérer. Et même, et surtout d'ailleurs, des conducteurs qui non seulement refusent s'arrêter, mais redémarrent et foncent sur les policiers. On l'a vu à Lyon, on l'a vu dans le Gard, on l'a vu à Béziers, on l'a vu à Nancy. Alors, est-ce qu'on doit revoir les méthodes d'intervention des policiers dans ces refus d'obtempérer? On en parle avec vous au 32-16. On a une équipe qui dit oui, Bruno Poncet et Olivier Truchot. Une équipe qui dit non, Bruno Pomard et Sarah Salman. La parole, l'équipe qui dit oui, il faut revoir la méthode, Bruno Poncet. Une minute, c'est parti.
Donc, mon propos ne va pas être de banaliser ni de normaliser ce qui se passe. Un refus d'obtempérer, c'est une catastrophe parce que d'ailleurs, ça entraîne quelque chose de grave. Le sujet, c'est plutôt quelque chose sociétal ou philosophique. Je trouve qu'aujourd'hui, la police n'est plus à sa place. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet où elle n'est plus respectée et parfois elle n'est pas respectable. Et donc, il faudrait vraiment revenir à une police proche, une police pour les citoyens. Et pour ça, je pense qu'il faut revoir la formation. D'ailleurs, la formation, elle a été écourtée depuis les attentats de 2015. Parce que moi qui ai beaucoup côtoyé de policiers pendant ces années-là, ils m'expliquaient qu'avant, une formation durait plus d'un an et maintenant, ça dure à peine quelques 6 mois, 8 mois. Donc, eux, ils le trouvent aussi qu'ils sont pas assez, ils sont pas toujours prêts pour aller sur le terrain. Ça peut entraîner des fois des choses comme ça. Mais il y a aussi un sujet où, à un moment donné, il faut que cette police soit proche des jeunes. Et puis de tout le monde. Et moi, je pense qu'il serait important, par exemple, que certains policiers aillent dans les écoles, dans les quartiers, qu'on n'y ait plus de territoire non plus déserté. Qu'il n'y ait plus de territoire où on a retiré plein de commissariats de proximité, ou alors il y avait une certaine proximité entre la police de quartier et les jeunes et les gens du quartier, donc ils se sentaient aussi protégés. Aujourd'hui, quand j'entends le ministre Darmanin qui se vante d'avoir déplacé 800 points de vente, ils sont juste déplacés, ils ne sont pas fermés.
Et les points de deal, oui. Réponse, Bruno Pomard.
Bon, je suis en partie d'accord avec ce que dit notre ami.
Alors, tu peux rester dans la team, là, s'il te plaît.
Bruno Pomard. Non, mais seulement le remettre dans le cadre en sachant que les formations de police ont augmenté, puisqu'on est passé de 8 mois à 12 mois. Ça, c'est une première chose. Là, on parle des refus d'obtempérer. Donc, c'est pas du rapprochement police-population.
On est pour faire comprendre que c'est pas une. Enfin, qu'à un moment donné, quand les flics sont en face de toi, arrête-toi. Sauf si t'es un voyou.
Mais ça, en pédagogie, armé, je le fais. Moi, je le fais tous les jours avec mon association, avec 400 policiers qui vont dans les écoles, qui vont partout pour expliquer ce que c'est une interpellation, etc. Ça y est, on n'a pas de souci là-dessus. Le seul truc, c'est qu'on parle des refus d'obtempérer, qui sont des crimes, tout simplement. Soit on tue des gens qui sont pour rien, ou on blesse et on tue nos policiers. Il y a des centaines et des milliers de policiers qui sont blessés depuis des années, avec les gendarmes, on peut rajouter. Donc je pense qu'il y a une règle, des lois qui existent. On a la 233.1 qui détermine le refus d'obtempérer. C'est quoi le refus d'obtempérer? C'est tout simplement lorsque on t'intime l'ordre de t'arrêter, eh ben tu ne t'arrêtes pas et tu fonces. Tu fonces sur quoi? Sur le policier qui est là pour faire barrage, parce qu'il est là pour ça. Et c'est un crime, c'est une forme, c'est criminel de faire ça. Le refus d'obtempérer ne se fait pas de façon très très cadrée. C'est-à-dire il y a à ça la légitime défense du policier. La légitime défense, c'est quoi? C'est des sommations. On ne tire pas, on ne sort pas son arme à la cowboy, on tire dans tous les sens, c'est pas vrai. Il y a des sommations. Hein, les sommations, c'est halte police, où je tire. Le gars, il comprend, sauf s'il a du rap dans la bagnole, plein pot. Bon, généralement, les gens qu'on interpelle.
Du Michel Delpech, tu vois, c'est un peu tendancieux ce que tu dis,
non, mais
Bruno.
Les interpellations qui sont faites sur les 157 coups de calibre qui ont été tirés, ont été tirés en majeure partie du temps sur des voyous. Surtout des mecs qui ont des casiers comme ça.
Mais c'est clair.
Ils n'ont peut-être pas
d'en mettre une balle dans la tête.
Ils n'ont pas le droit de mourir. Tu as raison. Mais en attendant, moi, je pense aux policiers et je pense surtout aux gens comme nous qui nous baladons dans la rue.
Justement,
contraint
j'ai une question
de raconter ce type de mec.
Dans le Gard, ce week-end, il y a eu 2 refus d'obtempérer dans le département. Il y a eu 7 policiers qui ont été blessés.
C'est même un record, je crois, en une semaine, autant de policiers blessés. Donc il y a un vrai souci des deux côtés, j'ai envie de dire. Mais dis-moi, Bruno, on a changé la loi en 2017.
Oui. On a un régime dérogatoire.
Et certains disent que depuis qu'on a changé la loi, on a créé de la confusion. Et d'ailleurs, les tirs de policiers et de gendarmes ont augmenté de 50% depuis qu'on a changé la loi. C'est une note interne de l'IGPN, donc des policiers qui l'ont dit. Alors, est-ce qu'on n'a pas créé de la confusion ou avec la loi donc de 2017, où on a finalement facilité l'usage de l'arme à feu, les policiers peuvent tirer sur un véhicule quand un conducteur n'obtempère pas et quand il est susceptible d'être mis en danger par ce véhicule, est-ce que c'est pas ça aussi le problème ?
Non, il y a simplement une société qui est de plus en plus violente, et c'est constaté tous les jours par nos policiers. Si tu lis ces textes-là, tu vois bien que l'augmentation de la violence, de l'ultra-violence a augmenté dans d'autres pays, et si on a 25 000 refus d'obtempérer, moi quand je suis rentré à la police, j'ai fait le contrôle de police comme CRS, etc.
Tu en as eu ?
Mais jamais, j'ai jamais entendu parler vraiment de refus d'obtempérer. Je te parle des années 80, entre 80 et 85. Après, je suis rentré au RAID. Mais jamais, on a vu ce qu'on voit depuis une dizaine d'années. Donc, ça veut dire que la société est de plus en plus violente et que les policiers, évidemment, sont confrontés à cette violence et sont susceptibles de sortir plus facilement leur arme.
Bien sûr, le refus d'obtempérer, c'est souvent le grand voyou, effectivement. Oui. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a créé aussi une machine terrible avec ce permis à points et ces radars partout. C'est-à-dire que les gens perdent leur permis quand même beaucoup plus facilement qu'avant, parce qu'on perd des points, etc. Et il y a aussi beaucoup de conducteurs sans permis et donc sans assurance qui, bêtement...
Et c'est une raison pour faire un refus d'obtempérer.
Non, mais c'est une infraction, quand tu roules sans permis.
Encore une fois, si on dit les choses factuellement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec soi, mais c'est une réalité.
Il y a de
plus en plus de conducteurs qui roulent sans permis. Tu es d'accord avec moi, Bruno?
Oui.
Tu es d'accord qu'il y a de plus en plus de conducteurs qui roulent sans permis?
Donc on les laisse rouler, comme disait Mélenchon, on les laisse passer.
C'est pas ça. C'est que c'est pas la même chose, ces conducteurs qui roulent sans permis et qui devraient s'arrêter, je suis d'accord avec toi, et les grands voyous qui veulent éviter à tout prix les contrôles policiers.
On ne peut pas faire une hiérarchie.
Or, le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Quand ce conducteur arrive, on ne sait pas à qui tu as affaire. Et peut-être qu'il est là, on devrait peut-être. Et d'ailleurs, Darmanin lui-même a dit il faudrait peut-être arrêter de supprimer des points pour les petites infractions routières, simplement mettre une amende, pour arrêter de créer d'une façon un peu artificielle ce flot important de conducteurs sans permis, sans assurance, qui, bien sûr, ces conducteurs, quand ils voient un policier, ils ont un réflexe, c'est tout d'un coup de vouloir éviter le contrôle.
Mais comment ça, bien sûr, t'as pas d'assurance, t'as pas de permis, tu t'arrêtes, t'es en infraction.
Tu me fais la morale, c'est pas ça le problème, je te dis.
Mais regarde, régime dérogatoire de 2017 a déjà été modifié. Là, la question, c'est faut-il revoir les méthodes de contrôle et d'interpellation? Ça a déjà été modifié. Et depuis 2017.
Donc il faut venir en arrière.
Attends. Et cette loi prévoit que les policiers peuvent faire usage de leur arme en cas de d'absolue nécessité et de matière strictement proportionnée. Avant, c'était le cas de la légitime défense définie par le code pénal. Voilà. Donc nous avons ce régime dérogatoire quand un policier fait usage de l'arme.
La règle, il y a plus.
Mais pourquoi il y a plus il y a plus. Voilà. OK, mais pourquoi? Parce que la société est de plus en plus violente, parce qu'il y a une augmentation de la délinquance. Qui dit augmentation de la délinquance dit qu'il tire plus. Enfin, c'est mécanique.
On se croit tout permis. Tu sais, je veux dire, il y a une chose qui est très simple. Moi, je le vois tous les jours. Les collègues, j'en ai au téléphone, ils me disent systématiquement les gens ne respectent plus rien.
Ouais.
Voilà. Et les cas extrêmes, ce sont ces cas-là. C'est pas que des gens qui n'ont plus de permis, mon cher Olivier, je te rassure. Il y a souvent beaucoup, beaucoup de voyous. Et d'ailleurs, on le voit quand on tire le palmarès du mec.
Long comme le bras.
Ouais, exactement. Ou malheureusement, quand il est neutralisé, eh bien voilà. Moi, ce que je regarde encore une fois, dans les méthodes d'intervention, elles sont bien faites, les méthodes d'intervention, parce qu'elles sont quoi? On est sur du direct live, comme vous êtes, vous, sur un plateau. Des fois, il faut traiter un sujet très vite. Mais là, c'est pas fait. Le policier, il est sur une situation donnée. Et quand j'entends, par exemple, oh, mais l'interpellation, est-ce qu'on pourrait tirer dans les roues de la voiture?
Oui, mais est-ce que
les Tartuffes, venez avec nous sur le
terrain. Il y a un autre argument, c'est est-ce que finalement, on laisse filer la voiture et on essaie de retrouver plus tard les occupants de cette voiture?
Imagine les atteintes aux biens et aux personnes que ça pourrait causer. Qu'est-ce que tu fais? Imagine, ils foncent, il a bu, il fait n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'affaire Yannick Aleno? On a vu ce que ça. Enfin, c'était Antoine, son fils.
C'est le fils qui mord.
On a vu ce que ça a donné.
Le fils du chef, Yannick.
Voilà. C'est vrai que.
Ça, c'était un délit de fuite, mais on voit le délire.
Le discernement des policiers et des gendarmes, parfois, fait que, effectivement, on le laisse passer, c'est pas grave, on va le retrouver, sauf si la voiture est volée. Mais quand c'est pas le cas, et quand on tombe sur des ultra-violents, comme c'est arrivé, les 157 cas où les policiers sortent leurs armes, ben je peux vous assurer, ça arrive la nuit, dans des impasses, dans des rues, dans des zones industrielles, etc. Tous des endroits où on n'est pas la nuit, la voiture arrêtée, les feux éteints.
Et les policiers sont pas sous permis, à l'IGPN.
Bien sûr, mais juste pour entrer un peu dans la discussion, regarde, lorsque le policier sort son arme, D'abord, il peut pas tirer sur le véhicule. Tu n'arrêtes pas le véhicule, donc tu es obligé de tirer sur la personne physique.
Le conducteur.
D'accord. Le conducteur. Mais sauf que les derniers cas, on a vu aussi des passagers
qui se sont fait
tuer, avec notamment deux jeunes filles. Ouais. Bon, on peut pas uniquement dire. Ah, pas de bol. Il fallait pas qu'elle se trouve dans la voiture avec le con qui a refusé de tempérer. Bon,
Excuse-moi, je me retrouve pas dans une voiture avec un trafiquant de drogue.
Et j'ai pas le permis, moi non plus.
Non, mais pardon, c'est pas forcément l'argument. C'est le fait que le conducteur a refusé de s'arrêter. Elle n'a pas le droit de mourir. Pardon.
Quand t'as un voyou qui t'amène le soir ou la journée dans sa voiture, que tu sais c'est un trafiquant connu, etc.
Non, mais les dommages collatéraux dans cette histoire.
Mais ça fait partie malheureusement du métier.
Non, non, sur le Pont-Neuf, c'était pas copains voyous, c'est des gens qu'ils ont rencontrés en boîte de nuit, et tu peux rencontrer des gens en boîte de nuit sans savoir qui c'est.
Attends, le Pont-Neuf, tu veux dire le camion ?
Non, l'autre.
Non, mais c'était des filles qu'ils avaient draguées en boîte.
Voilà, c'est tout.
Les filles, elles savaient pas qu'elles allaient finir avec une balle dans la tête.
Mais refais l'histoire.
Parce que le conducteur, c'était pas.
Refais l'histoire, les policiers en vélo ont voulu arrêter le véhicule a redémarré. Enfin, il y a quand même, tu vois, un sentiment quand même de...
Oui, mais c'est ce qu'on dit. On comprend.
Et les policiers réagissent par rapport à ce qu'ils ressentent sur le terrain. Le discernement est compliqué à faire, croyez-moi. Ça se joue en quelques secondes à chaque fois une intervention.
Moi, j'entends.
Tu t'es retrouvé dans ce genre de situation avec policiers face à toi,
dans les manifs,
armes sortir ou pas?
Mais bien sûr. Et puis moi, j'ai traîné avec des voyous. Je savais que c'était des voyous. C'était mes amis d'enfance. Mes amis d'enfance, c'est pas tous des énarques. Enfin, il y en a peut-être un. Ah. Mais vraiment, bien sûr. Mais on sait ce qu'on fait. Mais par contre, moi, mon époque.
Tu sais ce que tu fais en montant avec lui dans la bagnole.
Mais bien sûr.
Mais voilà.
Mais moi, par contre, si on s'arrêtait un jour.
Ah ben, ça aurait pu t'arriver.
Non, on s'arrêtait à chaque fois. Et même quand on avait du shit dans les poches, on s'arrêtait. Et même quand on avait bu, on s'arrêtait. Et puis des fois, on avait bouffé un bonbon la Croix-Bleue. On pensait que ça allait passer. Enfin voilà. Ça nous arrivait pas mal de fois. Voilà, c'est comme ça l'histoire. Mais le sujet n'est pas. Moi, je trouve qu'à un moment donné. Et moi, c'est en ça que je. Et moi, je suis pas anti-flic. Et pourtant, j'ai pas mal d'histoires à raconter sur eux que je pourrais en raconter des tas. Mais non. Par contre, moi, ce que je voudrais, c'est que cette police-là ne soit plus la police, cette police qu'on déteste et qu'on haït. Moi, je voudrais que ça soit une police qui soit proche des citoyens, mais tous les citoyens.
Quoi,
voilà.
Ça.
Et qu'il n'y ait pas de contrôle aux faciès, qu'il n'y ait pas de. Tu vois, tout à l'heure, Bruno, moi, j'entends ce que tu dis, mais quand tout ton raisonnement est valable, juste tu dis, ils écoutent du rap. Ça veut dire quoi? Que c'est forcément gamin des quartiers?
Non, mais ça va, c'est normal.
Il faut arrêter avec ça, parce que moi je pense vraiment qu'il faut qu'on rassemble et rassembler la police avec les citoyens. C'est moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un des trucs à faire.
Non, mais tu peux pas tout prendre au pied de la lettre.
Pour déborder de ce que tu dis, la police se réforme et on le sait. La police se réforme depuis, elle est mieux formée maintenant. On s'adapte. Aux problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Regarde, on parlait des violences urbaines, il y a les CRS spécialisés, des forces d'action rapide qui se mettent en place. Voilà, on réagit à ces problématiques de sécurité qui sont
Vous êtes dépendant de plus en plus.
Nos policiers sont de mieux en mieux formés. On peut pas nier.
T'es dépendant de la politique en plus.
C'est la mi-temps. Donc, on va regarder où on en est dans la consultation.
Refus
de tempérer, faut-il revoir les méthodes? C'est un oui, 60-40. Comment c'est l'équipe, oui, faut voir ça qui l'emporte. On va avoir deux points de vue dans un instant du côté de la Somme avec Greg. Oui, il faut revoir ça. Et David, non, il est du côté de la Haute-Garonne. Ça va être un cousin. David Pomard ou un cousin par alliance ou quelque chose comme ça. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors, on était en train, avec les grandes gueules, de remémorer quelques souvenirs et de savoir si, dans notre jeunesse, parfois, ça a été allez vous faire voir quand il y avait un policier en face. Oui, monsieur l'agent, vous avez raison, monsieur l'agent. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment la peur de l'uniforme.
La peur du gendarme, comme on dit.
Et c'était oui, monsieur l'agent.
Sauf Bruno Ponce.
Bah, si, moi, ça a toujours été. Après,
est-ce que tout le monde a son permis ici?
Après,
avec tous les points, c'est ce que tu veux dire.
Non, pas tous les points.
Si, moi j'ai tous mes points. Mais moi, c'est facile.
Tu conduis plus.
J'ai tous mes points, mais je conduis pas. Donc
mais moi, je conduis tous les jours en scooter, donc forcément.
Moi, il m'en manque un paquet. Hein.
C'est pas vrai.
Ouais, je me suis pris 3 points la dernière fois sur un téléphone.
C'est le policier qui dit ça.
J'ai assumé.
T'avais le téléphone à la main?
J'ai fermé ma gueule, comme on dit. Hein,
puis t'as pas le kit main?
Ouais, sur le périph.
Et tes copains, ils t'alignent quand même?
Oui, oui, oui. Je fais pas état de ce que je fais ou ce que je. Voilà.
Le gouvernement était pareil. Je
dis pas que
t'es
policier.
Ça fait partie. Je le place à un moment donné parce que plus ou moins, en état un peu dans les médias, on me connaît. Mais voilà, il a fait son boulot, c'est tout. Point final.
Allez, on va discuter.
Moi, ça serait comme ça.
Il pourrait être ministre de la Justice.
Merci.
Lui, au moins, il pourrait.
Moi, ce que je ferais, c'est s'il vous plaît, monsieur. Je suis désolée, oui, c'est la première fois et je l'ai fait une fois, c'est passé.
Oui, ah, mais ça c'est le côté charmeur des femmes, mais qu'on n'a pas nous.
Allez, on y va avec David. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour David.
Bonjour.
Alors, refus d'obtempérer, est-ce qu'on doit revoir les méthodes policières, oui ou non?
Alors, je pense pas qu'il faille revoir les méthodes, mais je pense davantage qu'il faut réfléchir aux causes, en fait, de cette augmentation des lits de fuite. Et une fois qu'on a identifié les causes, mettre en place, en fait, tout ce qui va permettre à réduire les délits de fuite. Alors, il y a des choses qu'on sait, il y a une augmentation de la violence. Bon, c'est la société, ça, travailler sur la cause, ça va être compliqué. On sait qu'il y a une augmentation des trafics de stupéfiants, donc il y a des délits de fuite, c'est très compliqué aussi. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on en est à 770 000 personnes qui conduisent sans permis à cause des fameux systèmes de perte de 1 point en dessous de 10 km/h, etc.
Il y a le permis, pardon David, il y a le permis et puis il y a la question des assurances aussi.
Bah, c'est lié,
t'as
pas de permis, t'as pas d'assurance.
Moi, ce que je trouve terrible, c'est que des jeunes ou moins jeunes, vont faire avant un délit de fuite, enfin une infraction à cause de d'une infraction administrative parce qu'ils ont plus de points, plus d'assurance et que ça finit en drame. Alors que pour moi, les méthodes policières doivent être les mêmes sur des trafiquants de drogue qui forcent des barrages, etc. Mais sur les 770 000, c'est beaucoup trop. Et on sait tous, entre nous, on imagine une personne qui voit et qui arrive sur un rond-point où il y a un contrôle, alors qu'il roule sans son permis, et ben, il va y avoir cette idée de dire, bon, ben, je vais essayer de m'en aller, puis ça se termine automatiquement. Donc moi,
je suis
le premier à réfléchir à peut-être ces petits jeunes-là qui sont pas non plus, ou c'est administratif, alors c'est grave. Mais comment faire et je crois que c'est Darmanin qu'on a parlé il y a peu de temps, mais peut-être d'enlever ces petites infractions. Et je pense que ça pourrait jouer. En tout cas, si on pouvait avoir plus de personnes qui conduisent réellement avec le permis, je suis sûr que ça jouerait.
Alors en plus Darmanin n'enlève pas les petites infractions. L'infraction est toujours là, mais il n'y a plus de retrait de points. Il y aurait que l'amende.
Exactement.
Parce que finalement, aujourd'hui, c'est une double peine. On a à la fois une amende et à la fois un retrait de points. C'est d'ailleurs bizarre parce qu'a priori, la double peine, ça n'existe plus. Mais là, on a une double peine quand on est automobiliste. Donc on pourrait effectivement garder l'amende.
C'est des peines supplémentaires.
Et d'enlever le point. Voilà.
Par refus d'obtempérer, il y a un an d'emprisonnement.
Moi, je pense que c'est en partie le problème des gens qui roulent sans permis.
Allez-y, oui, David. Attends, David, et vous-même, vous avez tous vos points sur votre permis ou pas?
Alors, j'ai pas tous mes points, mais j'ai 10 points aujourd'hui parce qu'on récupère maintenant.
Oui,
alors,
oui.
Heureusement, on récupère quand on n'a pas fait d'infraction au bout d'un certain temps.
Donc, vous dites
je roule énormément. C'est énorme. Et donc, des petites infractions, c'est souvent dans des endroits qu'on connaît parfaitement et à 1 km/h, 2 km/h. Mais, je dis pas que cette idée va régler tous les problèmes parce que vous aurez toujours de la grande délinquance, des délits de fuite et autres.
Oui, mais
si on pouvait jouer déjà, je suis en revanche convaincu que ça améliorerait ce nombre qui explose. Et quand on voit le nombre de personnes qui roulent sans permis, moi je suis persuadé qu'il y en a qui font des délits de fuite parce qu'ils n'ont plus leur permis. Et ça, je trouve ça par contre trop triste et ce serait dommage de pas jouer là-dessus.
Voilà. David, vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur David de Haute-Garonne. Pas de parenté avec Bruno Pommard. On est d'accord. Vous connaissez pas.
Non. On a tous un lien de parenté, mais en descendant jusqu'à Adam et Ève. Mais sinon,
non. Merci David. À bientôt sur RMC, RMC Story. Bonne journée, David.
Allez, ce que dit. Le problème, c'est qu'on fait le focus des refus d'obtempérer sur ces 157 cas qu'on a connus. C'est-à-dire ce qu'on médiatise parce qu'il y a des morts à chaque fois. Parmi ces 157 cas, je serais curieux, je sais pas, il faudrait que je me rencarde, si c'est des refus d'obtempérer parce que le mec n'a pas de permis. Juste ça. Après les 27 000 refus d'obtempérer, oui, effectivement.
Tu vas avoir un combo, pas de permis, oui, plus un casier fourni. Généralement, c'est un pack.
Généralement, un pack. Mais ce que je veux dire, si on fait focus sur les 157, donc où il y a eu mort d'homme ou de femme, effectivement, on peut se poser la question sur les profils des gens. Maintenant, sur les 27 000 refus d'obtempérer, effectivement, c'est des gens qui n'ont peut-être plus de permis, plus d'assurance, mais en attendant, c'est des vies mises en danger, c'est-à-dire de nos policiers, de nos gendarmes.
Il y a quand même une scène qu'on a en tête, c'est ce qui s'est passé à Nice, même si le type avait un pédigré, comme on dit. Mais regarde, le jeune policier, est-ce que pour autant, il doit rester? Alors là, c'est au policier, l'ancien policier du RAID que je parle. Il y a le refus d'obtempérer. Le gars recule, il a percuté une fois le véhicule de police.
tu restes à côté, bras tendu, à 30 cm de la vitre. Il n'y a pas un autre moyen mais de le neutraliser, parce qu'on voit, la voiture est immobile.
Ça va très vite. Hein.
Bien sûr, ça va vite, mais tu peux pas tirer dans l'épaule.
Mais j'entends bien ce que... Mais là,
parce que là, tous les derniers cas, ça a été des tirs mortels à chaque fois.
En théorie, on peut amener une voiture là, je peux te faire une démonstration à les policiers comment il faut faire de façon très stricte, très cadrée. Là, on est dans le discernement. Et le policier qui est là sur l'action, il a un taux d'adrénaline qui est au top. Il a vu sa bagnole, le policier. Juste percuté, ça veut dire, c'est rien. Juste percuté, il y aurait eu peut-être un policier devant, il aurait peut-être écrasé. Il l'a vu reculer encore une fois. Le gars, il a un espace d'un dixième de seconde, il s'est dit, le mec, il est dangereux, là. Ça va aller loin, boum, il a. Je veux dire, moi juger, très sincèrement, il faut être à la place de nos policiers pour comprendre la dangerosité dans laquelle ils sont lorsqu'ils font.
Non, mais je sais pas, par exemple,
je peux vous assurer que c'est pas évident.
Bien sûr, mais
si on a eu 157 cas, c'est pas par hasard. C'est qu'on a affaire souvent à des voyous.
T'as déjà tiré, toi, dans un refus d'obtempérer?
Non, j'ai été deux ans CRS, donc.
Je pose la question parce que je pense que ça arrive quasiment jamais dans une carrière de policier. De tirer directement.
Non, sur le nombre portant de policiers en action, 3 millions d'interventions de façon générale
donc,
en France.
Donc ça veut dire quand même que ces policiers se retrouvent dans une situation exceptionnelle.
Ah,
parfois ils sont pas très bien formés parce qu'on sait que la formation. Donc c'est là aussi ça. C'est-à-dire, encore une fois, moi je dédouane pas, je suis du côté des policiers, je suis pas du côté des voyous et je voilà, et c'est pour ça que je suis pas complètement ce que dit Bruno Poncet.
Ah, donc tu es un peu avec nous.
Mais c'est philosophique, Bruno.
Je me pose des questions sur effectivement, on a des policiers qui sont pas très bien formés pour tirer, qui tire quasiment jamais, qui sont dans des situations, comme tu l'as dit, exceptionnelles. Voilà, et c'est sûr que peut-être parfois, si la scène avait été refaite plusieurs fois, il n'aurait pas tiré.
Alors, il y a l'urgence.
Juste répondre à Alain pour lui dire que la police avance en termes de formation, on ne peut pas le nier. Et ce travail-là, effectivement, a été pris en compte au travers du Beauvau de la sécurité, entre autres, mais des nouvelles réformes qui sont faites dans la police nationale, justement pour faire travailler les policiers plus sur de l'action, sur des mises en situation. Ah. Et c'est là où on a besoin, effectivement, de plus travailler. Mais on a quand même des policiers qui sont souvent pas seul, c'est-à-dire on ne trouve pas un policier adjoint seul sur le terrain. Il y a un gars qui a toujours entre 7 et 10 ans, voire 15 ans de bouteilles.
Dans l'équipage, comme on dit.
Dans l'équipage, voilà. Ouais. Donc effectivement, mais encore une fois, quand on se retrouve à 3 dans un équipage, même s'il y a des jeunes, eh ben, la situation, il faut la régler. Et malheureusement,
Greg,
ça peut
bonjour.
Bonjour tout le monde, comment ça
merci,
va
bonjour
ça
va, Greg.
Merci d'avoir patienté. Alors, quelle équipe vous avez choisi? L'équipe oui ou l'équipe non? Alors
L'équipe oui, désolé, revoir la méthode. Pour moi, il y a un gros problème de méthode quand même.
Alors, expliquez.
Bah, écoutez, aujourd'hui, j'ai l'impression que un refus d'obtempérer, ça équivaut à la peine de mort. Si la personne est un voyou, ça passe. On va dire, sans trop de pression, ça peut aller. Si la personne est un voyou en face, bon, bah, le gars, il mérite une balle dans la tête. Alors là, je vais un peu dans l'excès, mais exprès.
On l'entend quand même, c'est la raison. On l'entend. Hein.
Oui. Allez-y, continuez, Greg.
C'est la vérité.
Oui, on l'entend.
Un voyou, juste un petit dealer de cité,
ce que vous voulez dire, c'est qu'il prend le risque, donc il sait à quoi il s'expose, quoi. Voilà, c'est ça.
Non, mais moi, personnellement, je trouve ça normal qu'un refus d'obtempérer mérite parce que la personne était un petit voyou à la peine de mort. Moi, personnellement, je trouve ça fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un petit voyou et demain, ce sera un gars qui a bu un coup de trop et qui va faire un refus d'obtempérer, on va le tirer dessus, on va dire, c'est normal, il y avait plus un coup trop.
Et le refus d'obtempérer, ça peut causer des morts. Imaginons que la personne déambule comme ça dans la...
Greg,
dans
vous arrêtez lorsqu'on vous... la police vous somme de vous arrêter. Vous arrêtez ou vous foncez dessus?
Moi, j'ai rien à me reprocher, on est d'accord.
Alors,
aujourd'hui, moi, je bois pas d'alcool, mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui boit un coup et qui sait que s'il se fait arrêter, on va lui sucrer son permis.
Mais il met en danger la vie des autres, en fait.
Ok, d'accord. Donc, en fait, là, en l'occurrence, si on parlait du cas de Nice, justement, où le policier est à 30 cm du conducteur, il est aussi à 20 cm des pneus. Alors, vous me direz que ça ne sert à rien de tirer dans les pneus.
Non,
mais là,
c'est
la voiture
plus des chambres à air, maintenant. Ouais.
La voiture est quasiment arrêtée. Elle est bloquée par la voiture de policier qui est juste devant. On a tous vu la vidéo. Je trouve ça trop. Ça va trop loin. Et du fait, les policiers, pour moi, ont toujours raison.
Non, ils n'ont pas toujours raison, mon cher gars.
Il y a l'IGPN.
Mais c'est caricatural, mon cher Greg. Écoutez, il y a 1500 policiers en moyenne par an qui passent au trapèze, comme on dit chez nous, soit de façon administrative, soit judiciaire. Et lorsqu'ils sont jugés, ils sont jugés par la justice et pas par la police en interne. Donc, non, vous ne pouvez pas dire ça, Greg. C'est excessif.
Non, mais écoutez, là, tout à l'heure, on parlait, il y avait 27 000 cas de refus d'obtempérer. Oui. Il y a eu 157 morts, j'ai entendu vite fait. Mmh. Il y a eu combien de morts chez les policiers? Parce que vous me dites tout le temps, ils sont en danger de mort.
Oui,
d'obtempérer, là sur les 157 morts pour sur des voyous entre guillemets.
Des milliers de blessés chez les policiers, les gendarmes tous les ans et des morts aussi.
Mais reconnaissez qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal quand même, c'est qu'il y a une consigne qui est écrite noir sur blanc en ce qui concerne les rodeaux urbains de dire on ne poursuit pas.
C'est ça.
Et là,
avec le refus d'obtempérer,
avec on peut sortir son arme. Donc, si tu veux, pour le citoyen, il y a quand même quelque chose qui colle pas.
Alors que la moto, ça prouve que la police en même temps fait du discernement à outrance et sans arrêt. Quand on voit les rodéos urbains, exactement la même chose.
Parce que c'est
là, une moto, c'est une arme par destination, comme une voiture. Point final. Quand tu fonces avec une moto sur quelqu'un, sur un policier, ou que tu tues une femme qui se balade avec son gosse, excuse-moi, moi, si le mec, il faut l'interpeller, lui mettre un coup de
pied. Mais on sait pourquoi vous voulez pas intervenir, parce que souvent, ce sont des jeunes, des mineurs.
Oui aussi.
On sait très bien que derrière, ça peut enflammer un quartier.
Oui, mais pour vous dire, alors, encore une fois, que
donc
la police.
Là, finalement, il y a du discernement.
C'est fini.
Oui. C'est Monsieur Pommard.
Hein. Oh la vache, quelle autorité.
Voilà.
C'est Marshall.
Je voulais éviter le refus d'obtempérer avec Bruno Pommard. Bien sûr, alors refus d'obtempérer, oui, il faut revoir la méthode.
On a gagné 3%, ouais.
J'étais pas dans mon équipe, mais c'est quand même.
57-43.
On avait des nuances, on a le droit d'avoir des nuances.
Ouais.
Non, bah, Olivier était avec moi.
Le droit de mon équipe, bon, voilà.
Je parle de méthode, mais quelle méthode ? C'est ça le problème.
La nuance aussi, c'est ce qui caractérise l'équipe de.
Ça caractérise les grandes
Estelle. Alain, c'est vraiment ce qui me caractérise, la nuance, moi.
Oui, on t'appelle Sarah la nuance, Salman. C'est ton surnom, ton deuxième nom.
Sarah la modérée.
L'allégorie de la nuance.
Estelle Denis, s'il vous plaît.
L'allégorie, c'est qui ça ?
Tout en nuance, comme d'habitude.
Tout en souplesse, Estelle Midi, bien sûr.
Bon, écoutez, on va parler d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen. Est-ce qu'ils doivent quitter leur fonction ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Des maires de tous bords qui réclament la légalisation du cannabis pour éradiquer la violence et les trafics. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Évidemment, vous nous appelez au 32-16. Et puis enfin, la Belgique qui réforme son droit du travail, flexibilité, déconnexion, semaine de 4 jours. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France ? On sera dans un instant avec Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieu. Qui ?
Tu dis la Belgique, on sera dans un instant avec. Je crois que Daniel.
Non, j'avais dit d'autres choses au milieu, mais tu ne m'as pas écouté.
Je n'ai pas suivi.
Il n'est pas belge, Daniel.
Non, je ne pense pas.
Non plus, je pense pas.
Daniel Vandebroek.
Le roi de la nuance aussi, Daniel.
Hein ?
Le roi de la nuance.
Ah, bah, Daniel, tout en nuance.
Ah, j'ai beaucoup aimé la
Belgique. Et en rondeur. Ah, bah, ça, c'est.
Passer 3 heures de débat avec l'ami.
Ah, j'ai apprécié.
Nous, on se retrouve demain. Tiens, demain, qui y a dans les GG ?
Étienne Liebig, éducateur, Zora Bitton, cadre de la fonction publique, et Stéphane Manigold, restaurateur.
Et nous serons aussi, je crois que c'est demain, avec Pascal Bruckner.
Tout à fait.
Le philosophe.
Qui s'en prend à la génération pantoufle, à ceux qui ne veulent plus sortir chez eux, plus travailler, plus rien faire.
Elle est jeune, quoi.
Ouais.
À demain 9h.